Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, les premiers et troisièmes lundis du mois, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Musicoscope, votre émission dédiée à la découverte de la musique contemporaine et de ses curiosités. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre triptyque Coulisses de création, dédié à la création contemporaine. Dans l'émission précédente, nous parlions de comment des pièces jouées pour la première fois sont reçues par leur public et de comment les médiateurs et programmateurs cherchent à les rendre les plus accessibles possibles à ceux qui les écoutent. La médiation de la musique vise à créer du lien avec les auditeurs des pièces. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous tournerons vers ceux qui construisent des ponts directs entre une œuvre et son public. Ce sont bien sûr ceux qui la jouent et l'interprètent, les musiciens et chefs d'orchestre. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous suivrons donc tout le processus de travail des interprètes de la musique contemporaine, depuis la première lecture et jusqu'à la création, en passant par les répétitions avec le compositeur. Nous serons pour ça accompagnés par les musiciens de l'Orchestre de Chambre de la Drôme, l'OCD, qui ont bien voulu répondre à mes questions lors de leur session de création Vendetlune en mai dernier. Alors si vous vous demandez comment on travaille une partition quand on ne l'a jamais entendue, à quoi sert un chef d'orchestre dans la musique contemporaine ou quelle liberté d'interprétation garde un musicien quand il travaille directement avec le compositeur d'une œuvre? Laissez-moi vous guider pour découvrir le travail de ces formidables artistes. Pour commencer cette émission, il me faut rappeler que si la question de l'accès à la musique contemporaine est parfois ardue pour son public, elle peut souvent l'être aussi pour les musiciens. Les portes d'entrée vers le répertoire contemporain sont multiples, mais il nous faut admettre que tous les musiciens n'y sont pas forcément réceptifs. Il y a à cela plusieurs explications, la première étant celle du goût personnel, mais elle est souvent confondue avec celle quasiment systématique de la méconnaissance d'un répertoire trop peu transmis au cours des études musicales classiques. Écoutons pour commencer Enzo, un ancien étudiant du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et aujourd'hui en poste dans un orchestre national, qui dit quelques mots sur la place de la musique contemporaine dans son cursus.
C'est quelque chose que dans mon parcours, j'ai pas trop découvert tôt. Il me semble que mes profs n'étaient pas très connaisseurs, je crois que j'y ai pas trop touché. En tout cas, dernièrement, à la fin de mes études, quand j'étais au conservatoire de Paris, c'est pas quelque chose que moi je poussais pour faire vraiment. D'accord. Beaucoup. Et je pense que mes profs, c'était pas quelque chose qu'ils adoraient non plus. Donc, on en faisait quand il y en avait besoin pour un concours ou pour une audition, peut-être.
On peut donc constater que même dans le conservatoire français le plus prestigieux, les professeurs ne se précipitent pas toujours pour transmettre la musique contemporaine à leurs étudiants. En partant de ce constat, si ce répertoire n'est pas transmis avec enthousiasme aux jeunes artistes, comment peut-on espérer ensuite qu'ils cherchent à le défendre et à le partager avec leur public ? On touche ici à une problématique inhérente à la pédagogie musicale actuelle. Pourtant, bien que ce cas de figure soit assez récurrent, d'autres étudiants trouvent au contraire un vrai sens dans leur pratique du répertoire contemporain et de création, et ce, avec ou sans aide extérieure. Louis, percussionniste et membre de l'ensemble Orbis, en parle par exemple comme de son champ d'expression artistique privilégié et comme un espace d'expression très libre qu'il décline sous de nombreux aspects de sa pratique, et ce, depuis toujours. Par ailleurs, chacun des musiciens que j'ai rencontrés lors de cette session avec l'OCD a fini par venir au répertoire contemporain d'une manière ou d'une autre, fruit de rencontres, d'appétences personnelles, par le biais de la composition ou de l'improvisation. J'ai donc pu me plonger avec eux dans toutes les questions qui touchent à la création et à l'interprétation de la musique contemporaine en ensemble. Pour un musicien qui prépare une session d'orchestre, la première étape est celle du travail personnel, pendant laquelle il découvre et s'approprie la ou les pièces qui seront ensuite abordées en grand ensemble. Vient alors tout de suite la question de la lecture des partitions contemporaines. On y demande souvent aux musiciens de jouer avec des techniques différentes des modes de jeu classiques, et chacune de ces techniques doit trouver son écriture pour la retranscrire. Nous sommes ici au cœur de la question du codage pour transmettre la musique. À chaque effet, son codage, une nouvelle écriture additionnée à la notation classique. Le premier travail du musicien est alors de décoder la partition, souvent à partir d'une légende explicative. Laetitia, oboïste à l'OCD, nous en dit un mot.
C'est vrai qu'il y a tous une question de notation qui est parfois difficile à écrire sur un logiciel de gravure de texte. Les compositeurs et les compositrices souvent doivent faire ça de manière un peu artisanale. Des fois même rajouter des dessins faits à la main ou des fois on a une petite légende en préambule de notre partition pour nous expliquer un peu plus les détails.
Cette étape de compréhension du texte écrit est essentielle dans ce travail, car la partition est le premier lien de transmission entre un compositeur et les musiciens qui vont jouer sa pièce. Elle peut se révéler aussi challengeante qu'elle ouvre des perspectives de rencontres vivantes avec un monde musical étranger, comme nous le rappelle Raphaël, violoncelliste à l'OCD.
Ça passe par une tentative de compréhension de ce que recherche le compositeur, de ce qu'il souhaite entendre. De ce qu'il a entendu en fait et en fait ça nécessite peut-être paradoxalement mais je pense pas ça nécessite une vraie interprétation en fait, une vraie place d'interprète, c'est-à-dire que la partition n'est qu'un moyen le moins incomplet le moins imparfait possible qu'a trouvé le compositeur pour traduire le geste sonore qu'il avait en tête et en fait l'interprète doit retraduire cet écrit dans son son, donc finalement ça nécessite une intervention de l'imagination aussi, ça nécessite de la sensibilité je pense pour rendre ça vivant.
Ces mondes musicaux et ces langages, les musiciens doivent les découvrir et se les approprier à chaque nouvelle pièce. Chaque compositeur a un mode d'expression qui lui est propre et que les instrumentistes doivent apprendre à connaître et à apprivoiser avec toutes ses spécificités. C'est Lisa, l'accordéoniste de l'ensemble Orbis, qui nous en parle.
Avec l'expérience, j'arrive un peu à cibler le type d'écriture. Enfin, j'essaye. Mmh. Et si j'ai des questions, je demande au compositeur, oui. C'est souvent le cas. Oui. Mais il y a des musiques qui vont être plus sur l'effet, on va chercher plus du timbre, et parfois la notation va être très précise. Et en fait, c'est plutôt un effet qui est recherché, parfois c'est l'inverse. Il faut arriver, je dirais, à cibler un peu quels sont les enjeux, les préoccupations du compositeur. Ouais. Et après, je travaille en fonction. Si c'est une précision rythmique extrême, on va travailler d'une certaine façon. Si c'est une recherche de timbre, une autre façon. Analyser un peu son langage, essayer de comprendre. Parce qu'en fait, une chose notée, un élément noté peut avoir plusieurs sens selon le contexte, je trouve.
À partir de ces nouvelles notations, les partitions contemporaines demandent souvent aux musiciens de manipuler leurs instruments autrement, de se les réapproprier avec des techniques qui ne leur sont pas familières et de jouer avec des sonorités inédites. Il arrive même que les compositeurs demandent aux musiciens de jouer avec des instruments qui ne sont pas vraiment les leurs. Pour ça, il n'y a pas meilleur terrain de jeu que les percussions. Et par exemple, dans la pièce « Qui » de Violeta Cruz, le percussionniste laisse ses cymbales et autres marimbas pour manipuler des grains de riz et des pois avec des techniques diverses, demandant d'apprendre littéralement à jouer avec des céréales et légumineuses. Un extrait tout de suite par les solistes de l'OCD. Une fois que le musicien s'est approprié le langage écrit d'un compositeur et les techniques de jeu d'une pièce, vient une autre problématique. Dans les pièces jouées à plusieurs, la maîtrise individuelle est certes indispensable, mais il faut surtout faire en sorte de réussir à jouer tous ensemble. Dans le cas de Key, les musiciens ne sont que trois. Mais pour les autres pièces du concert Van Deutelen, ce sont généralement une vingtaine de musiciens qui doivent se coordonner autour de ces nouveaux langages. Laetitia nous parle des sensations à la première lecture d'une pièce en grand ensemble, première rencontre des musiciens après un travail individuel.
C'est génial parce que d'un coup, notre petite pièce de Pulse s'imbrique dans le grand Pulse.
Oui.
Et on comprend pourquoi est-ce que telle note, eh ben, elle est coupée de telle manière. Bon, pourquoi est-ce que ça l'est coupée très vite et pas avec un point. On comprend aussi mieux les logiques d'articulation et de texte qui sont proposées. Et puis, moi, j'essaie souvent de bien travailler mes parties à l'avance pour avoir l'oreille disponible sur les autres et sur le son d'ensemble. Et pas d'être concentrée que sur ma partie, à faire les bonnes notes aux bons endroits et avec le bon rythme.
Laetitia nous le dit, ce qui compte, c'est le son d'ensemble. Il faut bien noter ici que les musiciens sont dans une position où chacun d'entre eux a dû faire un travail personnel de compréhension d'un nouveau codage et de technique instrumentale, que certains ont peut-être encore des interrogations sur la volonté du compositeur, mais qu'ils doivent trouver un moyen de tous s'articuler pour pouvoir jouer ensemble. Et c'est là qu'intervient un élément essentiel dans la coordination de tous ces musiciens, c'est le chef d'orchestre. Il n'est pas rare d'entendre des auditeurs s'interroger sur le rôle exact de celui qui leur tourne le dos en agitant les bras devant les musiciens. Mais laissons Raphaël nous confier quel est, selon lui, le rôle du chef.
Le rôle du chef, pour moi, il est... Bon, le premier de ses rôles, c'est de mettre ensemble les différentes personnes qu'il a devant lui et de les coordonner. Et par suite, pour moi, en fait, le chef doit avoir une vision. Il doit avoir une vision de l'œuvre qu'il propose et qu'il transmet. C'est-à-dire que dans la mesure où chaque musicien a sa propre vision de la pièce, finalement, c'est presque par souci d'efficacité qu'on a besoin de quelqu'un qui... Enfin, on a besoin. En tout cas, c'est utile d'avoir quelqu'un qui propose sa propre vision. Alors après, dans le cadre d'ensemble comme ça, ça peut être aussi... il peut y avoir de l'échange, il peut y avoir des propositions individuelles. Mais pour moi, c'est surtout ça le rôle du chef, c'est de mettre ensemble les musiciens qu'il a devant lui et aussi de leur proposer quelque chose.
En plus de cette énergie, le chef permet parfois de clarifier la pièce avec ses gestes, comme nous le souligne Louis.
C'est un musicien comme un autre. Dans le sens, pour moi, il fait de la musique de chambre avec nous, mais à 40. Non, mais dans le sens, il respire avec nous, il nous donne l'énergie, il n'a pas d'instrument entre les mains, mais en fait, il joue. Moi, je trouve, même moi, qui ai l'habitude d'écouter la musique contemporaine, si je vais voir l'intercontemporain, je regarde un peu tout le monde, mais j'aime bien regarder le chef. Parce que souvent, si tu regardes que le chef, tu comprends tout, des fois. S'il fait bien son boulot, je trouve que tu comprends tout parce qu'il impulse tous les gestes un par un. Et donc, quelque part, tu as une lecture visuelle, ça aide tes oreilles parce qu'en plus, tu as les points. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ton oreille, elle a eu le point, mais en fait, tu n'as pas compris que c'était... Ça t'aide pas vraiment à avoir la forme, des fois, où il faut le réécouter plusieurs fois. Et des fois, c'est un peu le souci qu'on a dans la musique contemporaine aussi, dans l'accessibilité, c'est qu'il faudrait écouter beaucoup de fois, des fois, certaines pièces pour les comprendre.
Le chef a alors un vrai rôle d'interprète et propose une vision musicale qui est la sienne, des fois indépendamment de celle du compositeur. Jean, musicien dans un orchestre national, nous le confirme.
Il est passeur, mais aussi beaucoup force de proposition. En fait, c'est vraiment le chef, c'est un interprète. Et l'interprète, il est là pour essayer de servir la pièce au maximum et de penser à des choses que le compositeur n'est pas pensé. En fait, finalement, d'avoir aussi une autre vision. Je pense pas finalement que une autre vision ou en tout cas essayer de rendre le meilleur rendu possible. Et finalement, peut-être que le compositeur parfois est pas le mieux placé pour faire travailler sa pièce.
Les musiciens ont donc autant besoin du chef pour se repérer dans le temps que pour insuffler une dynamique musicale commune. Écoutons maintenant James Kahan, le chef de l'OCD pour cette session de création, nous parler de sa propre vision de son rôle de chef et des spécificités de la direction du répertoire contemporain.
Le rôle du chef n'est pas tout à fait le même en fait en fonction de la musique que tu diriges. En fait, si on prend ce propos et on le pousse à l'extrême, on pourrait dire que la gestuelle n'est pas tout à fait la même dans, entre aucune pièce. Mais c'est vrai que dans la musique contemporaine, il y a un impératif souvent qui est que tu as une pièce qui est rythmiquement difficile. Souvent, c'est quand même l'une des grandes caractéristiques de beaucoup de pièces contemporaines, c'est qu'elles sont rythmiquement assez complexes, tout simplement parce que c'est un outil de langage musical qui est apparu plus récemment.
Ouais.
Donc là, le rôle du chef, je pense, ça va être très très souvent d'être juste extrêmement clair pour donner les outils aux musiciens de se placer de manière adéquate par rapport à ce qui est écrit à la partition et de jouer effectivement exactement ce qui est écrit. Or, la différence avec les pièces plus anciennes, au-delà de ces histoires de changement de métrique, etc., c'est qu'en fait, souvent, ce sont des pièces qui ne sont pas forcément plus simples techniquement, mais qui sont peut-être plus simple à comprendre de manière intuitive. Mais en fait, voilà, tu écoutes une symphonie de Brahms, une symphonie de Mozart, en fait, c'est vrai que c'est assez facile de s'en rappeler, de la jouer sans chef d'orchestre. De la même manière qu'en fait, si vous chantez Joyeux anniversaire chez vous, vous allez pouvoir garder le même tempo et vous synchroniser avec d'autres chanteurs qui chantent Joyeux anniversaire sans avoir besoin d'un chef d'orchestre. Alors que si vous essayez de chanter un extrait de Auslicht, l'opéra de Stockhausen, vous allez avoir plus de mal à rester ensemble.
En plus de sa vision musicale, le chef se doit donc de fédérer ses musiciens, autant en tant qu'interprète que manager. Chacun des musiciens devant lui a sa propre vision musicale, parfois différente de la sienne, et ils expriment d'ailleurs la nécessité de rester souple et ouvert à l'interprétation proposée. Et le chef doit donc jongler avec la transmission de sa volonté musicale tout en tenant compte des contraintes techniques de chacun. Il peut arriver que les séances de répétition soient ponctuées de longs temps d'attente pour certains, afin que le chef coordonne les musiciens qui manipulent tous des éléments inédits.
Musicoscope sur Radio Campus Angers 103 FM.
Comme pour les pièces du répertoire classique, il y a donc un lien très fort entre le chef et les instrumentistes dans le processus de compréhension et d'appropriation d'une nouvelle pièce. Pour autant, la musique, et plus particulièrement la création contemporaine, offre aussi la formidable possibilité de travailler directement avec le compositeur de l'œuvre, qui rejoint souvent les sessions de travail avant une création. En solo ou plus petit ensemble, il n'est pas rare que les musiciens échangent directement avec le compositeur pendant leur processus de travail individuel. Ils peuvent ainsi comprendre et éventuellement modifier les choses au fur et à mesure. Mais dans le cas d'un travail en grand ensemble, il est plus commun que ce soit le chef qui devienne l'interlocuteur principal du compositeur. James nous en explique le processus.
La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je rencontre le compositeur que à la première répétition. Dans le milieu de... En fait, voilà, quand on t'invite à diriger un orchestre et qu'on te dit que voilà, l'orchestre a fait une commande, surtout si t'es à l'étranger et que t'es loin, en fait, t'as pas forcément l'opportunité de le rencontrer avant. Souvent, tu peux échanger avec lui par mail avant et t'expliquer un petit peu les concepts, te faire une note d'intention, ce genre de choses. Mais en tout cas, la vraie rencontre, elle est à la première répétition. D'accord. En fonction de la pièce, le compositeur ou moi, le chef d'orchestre, peuvent sentir le besoin de nous rencontrer en amont. Parfois, ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'en fait, en voyant la partition, on peut très vite comprendre l'intention musicale. Et ensuite, la grosse partie des interactions se passe en répétition où en fait, nous, on joue la pièce pour le compositeur. Ce qui est extrêmement important, en fait, c'est que la pièce reflète ce que lui, il a entendu. Et qu'on arrive, nous, les interprètes, à bien traduire la partition, puisque la partition n'est qu'un texte, et que nous, on arrive à bien le parler pour que ce soit effectivement ce que le compositeur a imaginé dans sa tête musicalement. Et là, d'avoir le compositeur dans la salle, et de lui poser des questions, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est satisfait de l'équilibre entre les instruments, est-ce qu'il est satisfait des tempi, est-ce qu'il a des notes de manière plus générale, là, ça devient très important d'interagir avec lui de manière continue, et voilà.
La présence du compositeur est alors une formidable opportunité de comprendre la portée d'une pièce par le biais de celui qui l'a écrite. L'interprétation est alors pensée au plus proche de la volonté de la personne qui en est à l'origine. Le compositeur devient alors médiateur de son propre travail auprès du chef et des musiciens. Il est d'ailleurs intéressant de noter que chaque musicien n'attend pas la même chose du travail avec les compositeurs. Certains ont besoin d'éléments concrets, de mise en place, de réponses sur les techniques instrumentales et sur la manière de jouer, là où d'autres sont plus inspirés par les images, les couleurs, les textures et les éléments contextuels que les compositeurs peuvent apporter. Généralement, le compositeur met tout le monde d'accord. S'il y a une question sur l'interprétation, c'est lui qui finit par trancher. Il est donc important de se rendre compte ici à quel point les musiciens dans ce type de répertoire font un travail magnifique. Non seulement ils remettent systématiquement en question ce qu'ils connaissent de leur technique instrumentale, ils apprennent de nouveaux langages et de nouvelles manières de jouer, mais ils font également preuve d'une adaptabilité rare. Ils modèlent, testent et modifient en cherchant avec leur chef et le compositeur ce qui sonnera au plus proche de la vision de l'œuvre de ce dernier. Ils intègrent tout ça à des pièces souvent challengeantes instrumentalement et s'adaptent en permanence à des décisions musicales autres que les leurs. Ils nous offrent, tout au long de ce processus, une vraie leçon de partage et d'humilité. Mais avant de clôturer cette émission, je me dois tout de même d'interroger ces formidables musiciens sur la part de liberté qu'ils trouvent ou non dans l'interprétation de ce répertoire, malgré les contraintes qu'il impose. Avant d'être instrumentiste au service d'un son d'ensemble, il n'en reste pas moins chacun des interprètes en soi. Certains d'entre eux confient qu'ils trouvent leur part de liberté dans le processus d'appropriation des pièces. D'autres dans les propositions sonores aux interprétations qu'ils font aux compositeurs. Et d'autres encore dans l'indéniable part personnelle qui se trouve dans leur jeu, indépendamment de la manière dont il est conduit ou dirigé. Mais dans d'autres cas, plus rares, c'est le compositeur lui-même qui laisse une part de liberté choisie à l'interprète. C'est le cas par exemple dans la collaboration entre Michel Fano, le compositeur de « Quatre chants pour un miroir » et des fondatrices des ballets confidentiels, Joanne Saunier, danseuse et chorégraphe, et Éléonore Lemaire, chanteuse lyrique. Les « Quatre chants pour un miroir » sont une sorte de co-création musicale et chorégraphique où Michel Fano a transmis son œuvre à Joanne et Éléonore en leur laissant une liberté quasi totale dans l'écriture chorégraphique et l'interprétation de l'œuvre, à quelques contraintes près.
Michel avait deux, trois trucs, deux, trois obsessions.
Il avait trois indications très claires. Quand,
il fallait que je tombe au début.
Il fallait qu'elle tombe, oui, au cri. Mais en plus, je l'avais marqué, moi, dans ma part. Et puis, il me dit, oui, ça, je voudrais bien qu'il y ait une chute au début. Je dis, ah, ben, ça tombe bien.
Parfait.
Après, quand il avait dit, quand il y a des interventions solo des instrumentistes, il faudrait qu'Éléonore prenne la place et soit immobile. Ça, il le voulait. Et puis...
S'il y avait un truc.
Ah, si, le duo avec le piano.
C'est ça. Il voulait qu'à un moment je connecte avec le piano physiquement.
Voilà.
Donc tout ça a fait qu'il y avait une petite,
Une petite contrainte. J'adore les contraintes.
Ces quelques contraintes ont donc fixé des pierres angulaires pendant le processus de création d'Éléonore et Joanne, qui se sont ensuite complètement appropriées l'interprétation du texte de Michel Fano.
Joanne a compris le texte de Michel. À noter parce que Michel donc, nous donne le texte de « Quatre chants pour un miroir » et nous dit, alors je vous explique, il y a « amour, miroir, corps, éclat », ça c'est quatre mots, et ensuite je me suis amusée à faire des vers. En fait, c'est par accumulation. Et après, il prend chaque syllabe et il trouve des mots qui correspondent aussi. Donc en fait, c'est une forme poétique qui a un sens profond pour lui. Mais dans le verbe, c'est très abstrait puisque ce n'est qu'un jeu d'empilement syllabique. Et ce qui fait que Joanne, elle, avait compris
qu'avec l'intonation,
elle m'a dit c'est bizarre qu'à chaque fois que tu chantes c'est très très fort, etc. Alors que moi, en tant que chanteuse lyrique, pour moi c'était pas forcément si fort que ça d'une part, et je le voyais comme un truc très intime. Et elle a compris qu'en fait le truc très intime c'était la voix de la bande, et que moi j'étais le fantasme du miroir, quoi. Oui, et d'accord. Du coup c'était moi le reflet. En fait, tout ce qu'elle a bâti, c'est avec ces miroirs à trois faces là, et que quand il y a plusieurs reflets, il y a plusieurs femme. Et du coup, il y a ce fantasme assez sensuel, même si c'est suggéré, un fantasme plus vindicateur, et puis un fantasme qui est plus de la vie quotidienne.
Une co-création permet ainsi d'extrapoler une situation initiale, de la transformer selon sa propre lecture, tout en conservant autant le matériau musical que l'idée de base de la pièce. Ce processus demande une confiance mutuelle très importante entre les différents acteurs impliqués dans ce travail. Dans le cas des quatre chants pour un miroir, Joanne Saunier a écrit toute la chorégraphie seule avant de la transmettre à Éléonore Lemaire. Et Michel Fano, le compositeur, n'a découvert leur proposition qu'à la première répétition de l'OCD, quelques jours seulement avant le concert. On voit donc qu'en fonction des cas de figure, un interprète peut se sentir et se retrouver plus ou moins libre ou impliqué dans le processus de création. L'idée, quoi qu'il en soit, et indépendamment des goûts personnels et, selon James Cahan, de faire en sorte de tomber amoureux de chaque pièce abordée. Et le temps dira ensuite si l'amour dure ou non. Voici qui clôture notre émission d'aujourd'hui, également avec la certitude que la transmission de la musique contemporaine évolue à mesure que ses interprètes s'en emparent. Notons aussi que les schémas d'orientation pédagogique des conservatoires intègrent de plus en plus la question de la création dans les dynamiques de la pédagogie musicale. Les jeunes musiciens sont ainsi de plus en plus poussés à créer, explorer et embrasser d'autres formes de jeu et d'interprétation au long de leur cursus. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission d'aujourd'hui qui, j'espère, vous aura plu. Vous pouvez la retrouver, ainsi que les précédentes, sur le site de Radio Campus Angers où une page leur est dédiée, avec toutes les références citées aujourd'hui et sur laquelle vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je tiens à remercier très chaleureusement Raphaël, Louis, Laetitia, Jean, Enzo, James, Éléonore et Joanne, tous ces artistes qui ont répondu avec autant de générosité que d'humour à mes questions. Un merci tout particulier à Nicolas Misaine, le directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de la Drôme, qui m'a permis de réaliser ces émissions, et à Mathieu Gaillard, qui a grandement contribué à leur mise en place. Merci enfin à Étienne pour son aide à la technique de retour en Anjou. Nous nous retrouvons quant à nous le lundi 1er juillet à 16h30 pour la dernière émission de notre triptyque consacré à la création contemporaine. Une émission dédiée à la magie qui opère dans la tête des compositeurs quand ils écrivent une pièce. Nous nous quittons avec un extrait des quatre chants pour un miroir de Michel Fano, chorégraphié par Joanne Saunier, capté le 4 mai 2024 à Valence par l'Orchestre de Chambre de la Drôme et Éléonore Lemaire. Bonne écoute et bonne journée.
Vous écoutiez Musicoscope. Retrouvez-nous en direct les premiers et troisièmes lundis du mois à 16h30 sur Radio Campus Angers 103 FM ou en replay sur votre plateforme de podcast préférée.